Oui. Alors, chapitre 6 du livre de la sagesse. À nouveau, on va s'adresser au roi. Déjà, on avait dit, comment dire, à ceux qui avaient l'autorité sur qu'ils devaient faire attention parce qu'ils seraient jugés d'une manière plus sévère. On avait vu cela. Je n'arrive pas à le retrouver. Que ceux qui sont rois seront, comment dire, jugés d'une manière plus sévère. Et ce qui est étonnant dans le livre de la sagesse, c'est la manière extrêmement actuelle comment dire, de l'inspiration. Ça concerne vraiment notre temps. On est vraiment dans le fait de nier l'existence de Dieu, de nier la vie après la mort, et ça répond à cela. On se demande comment, du temps comment dire, de Salomon, et si le livre de la sagesse a été complété à travers les siècles, alors que les sociétés étaient extrêmement superstitieuses et déistes, eh bien déjà à l'époque, on va avoir cette réponse à ceux qui nient totalement l'existence de Dieu ou qui nient une vie après la mort. On a l'impression qu'on parle d'athées et non pas seulement de païens. Et donc, on donne rendez-vous aux hommes par rapport à la foi en Dieu créateur, auteur de la vie, autant qu'auteur de la grâce, c'est-à-dire de tout ce qui est surnaturel, mais aussi de la vie de foi, la vie de prière. Chapitre 6. Écoutez donc, ô roi, et comprenez. C'est très incisif, hein, la manière de parler de Salomon. Donc on attribue les livres sapientiaux à Salomon parce qu'il était, il avait été dans de nombreuses années rempli de cette sagesse. Il l'avait ensuite perdue par le tourbillon des honneurs, de la gloire, de la richesse et des femmes. Certains pères de l'Église pensent qu'il est mort comme cela et qu'il s'est damné. Et d'autres pensent qu'il est à l'origine des écrits sapientiaux. Et que si on les lui attribue, c'est que c'est les écrits de sa conversion, et ensuite qui ont pu être repris par d'autres auteurs sacrés, par des prêtres. Mais dans sa racine, il ne faut pas oublier qu'il a 18 ans et il demande à Dieu une profonde sagesse. Alors il n'aurait jamais écrit. Et lui qui avait une très grande sagesse, une très grande manière d'aborder les. Si vous pouvez lui couper
Oui,
le sifflet. Enfin, vous recevez beaucoup de SMS. Voilà. Donc écoutez donc, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, souverain des terres lointaines. Alors, les terres lointaines, c'est parfois les îles. Et donc ici, on dit, l'auteur s'adresse à des rois païens. Il s'agit ici de la loi naturelle dont la conscience est l'interprète. Vous voyez? Donc c'est extrêmement actuel. Vous voyez, le commentaire ici dit, l'auteur s'adresse à des rois païens, il s'agit ici de la loi naturelle. C'est incroyable. De nos jours, des exégètes n'oseraient même pas en parler, il n'y a plus de loi naturelle. Qu'est-ce qui s'est passé au synode? On a dit, il n'y a plus de péché, il n'y a plus d'actes intrinsèquement mauvais. Ou s'il y en a, la conscience ne peut jamais les atteindre. On ne peut jamais être vraiment conscient d'un mal intrinsèque. C'est notre jugement personnel C'est le subjectivisme, oh, c'est une vieille erreur, hein, mais c'est bien réaffirmé lourdement. Et bien là, l'auteur de la sagesse dit à tous qu'ils peuvent se convertir et qu'ils peuvent trouver la vérité, sans même les saintes écritures. Et par rapport à l'existence de Dieu, à la prière. Oui, mais Melchisédek, il a une tradition adamique.
Oui, mais quand même, c'était.
Il est de, oui, mais il est de la religion d'Abraham.
Oui, non, mais c'est que je veux que. Bah, il a... Non, bah, peut-être je me
Oui,
suis.
mais il a gardé la foi depuis les patriarches. Ce sont
Ouais,
des
non, mais c'est.
branches de foi qui viennent de la révélation d'Adam. Donc il faudrait.
Faut que je le relise.
Non, mais pour la conversion du paganisme à la vraie foi, il faut retrouver le monothéisme et tout ça. Melchisédek, semble-t-il, lui, est d'une génération qui ne l'a jamais perdue. Comme Abraham. Abraham est monothéiste, il n'est pas polythéiste. Et Melchisédek et Abraham se rencontrent et communiquent dans cette, comment dire, dans cette foi. Alors, prêtez l'oreille, vous qui commandez aux foules, qui êtes fiers de la multitude de vos peuples. C'est le Seigneur qui vous a donné le pouvoir. Et le Très-Haut, la souveraineté, c'est lui qui examinera votre conduite et scrutera vos desseins. C'est très important dans la doctrine sociale de l'Église. Il y a eu toujours la concurrence entre deux sociétés parfaites dans leur ordre, dans leurs moyens de subsistance et leurs moyens de jugement et dans leur hiérarchie, que sont la hiérarchie de l'Église ecclésiastique et la hiérarchie d'un État. Et donc, avant, on était dans une comment dire, coopération et une reconnaissance mutuelle. Et le laïcisme dit qu'il ne faut pas reconnaître la religion. Et des prêtres, et des théologiens, des sociologues chrétiens vont dire, eh bien, peut-être qu'ils ont raison et que, en fait, la religion n'a rien à voir avec la vie terrestre. Or, voyez-vous, l'Église a toujours dit, mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc toi, César, toi, le roi, toi, le président de la République, s'il y a des élections et que Dieu permette que tu aies 1% ou 1000 voix de plus que l'autre, c'est Dieu qui te donne ce pouvoir. C'est pas le peuple. Et donc il y a une querelle entre théologiens pour savoir d'où vient le pouvoir. Est-ce qu'il vient du peuple et Dieu le consacre, ou alors est-ce que dans une providence divine, tout vient d'une permission divine?
C'est ce qui a donné le vox populi, vox Dei.
Oui, éventuellement, sauf que là, c'est parce que on présume qu'une très grande majorité du peuple ne se trompe pas sur la vie ordinaire. Mais de nos jours, avec la propagande et médiatique, on peut
On peut plus dire
essayer
ça.
d'avoir des majorités. Et c'est la raison pour laquelle on ne met pas aux voix l'élection, on ne met plus aux voix, parce que ça a été aux voix parfois, les clercs et le peuple élisaient l'évêque.
Oui, Ambroise était une
Oui,
comme ça.
mais eh bien, petit à petit, on a eu que 100, 120 cardinaux, je crois. C'est 120, je crois. Comme ça, ce sont des hommes triés sur le volet, qui connaissent l'Église, qui sont normalement pieux, des hommes de prière, tout ça, enfin voilà. Donc c'est une providence divine, d'abord par élection, par sélection providentielle de la vie de prêtre, pour qu'ils arrivent cardinaux, et ensuite, par contre, on livre le destin de la Sainte Église, le futur de la Sainte Église, à 120 personnes qui vont voter. Mais il faut pas oublier que le Saint-Esprit, il maîtrise, hein.
Oui,
Et si on a un pape mauvais, comme on a eu comment dire, dans le siècle de fer, les querelles des familles romaines, ou à la Renaissance, Dieu le permet. Mais il maîtrise toujours. Parce que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Et quels que soient les actes plus ou moins éclairés d'un pape. Mais c'est dans son magistère ordinaire et universel, dans le magistère ordinaire et universel de l'Église, ce qui a été enseigné de tout temps, partout et à tous,
ne peut pas être contredit.
Ne peut pas être faux. Et quand le pape, de manière solennelle, dit « Je suis le successeur de Pierre, je vous oblige tous les baptisés à croire de manière définitive cette vérité », il est infaillible. Alors, ici, donc, qu'est-ce qui est affirmé ? C'est que Dieu a donné providentiellement le pouvoir à tel ou à tel. Et on dit, ah bon ? C'est Jésus nous a donné François Hollande ? Ben, on a le chef qu'on mérite. Il a laissé la majorité des Français, mais ça ne lui échappe pas que François Hollande soit président de la République française. Dieu l'a permis. Il a voulu permettre cela. Et François Hollande, pendant 5 ans, va être responsable de nombreux actes de la vie quotidienne de nombreux Français. Mm-hmm. Et à sa mort, il sera jugé en conséquence.
Je le plains.
Ben, sauf s'il se convertit, très sincèrement.
Oui.
Si donc, intendant de son royaume... Donc là, l'Église dit bien, attention... vous devrez rendre des comptes à Dieu et donc aussi aux prêtres et aux papes, de temps en temps, quand vous touchez des matières qui ont une influence directe ou indirecte sur le salut des âmes. Par exemple, la doctrine sociale de l'Église qui se prononce sur la protection sociale des individus ou la faveur donnée aux familles, des allocations familiales, c'est pas rien. Donc quand une autorité publique ne veut pas de politique nataliste fiscale, eh bien l'Église peut lui reprocher pour encourager la famille. Ensuite, il y a aussi la mauvaise gestion de l'argent public, c'est aussi une faute. Et que les personnes tombent au chômage ou soient assistées, c'est aussi... Vous voyez, l'Église n'est ni de gauche ni de droite. Elle est dans l'objectivité et la loi naturelle. Par exemple, actuellement, on devrait avoir des évêques qui disent des migrants, oui, mais qu'on puisse accueillir dignement et qui doivent se comporter dignement. Ils ne doivent pas être des délinquants, ni des voleurs, ni des violeurs, ni des gens malpropres. Ils doivent accepter l'éducation. Et on leur demande de respecter. À Calais, ils ont attaqué les maisons, tout ça. Enfin, les gens n'en peuvent plus. Il faut qu'ils soient polis, tout simplement. C'est la première. Quand quelqu'un vient, un étranger vient, il doit être correct, poli. Exactement. Vous voyez, regardez ici, c'était cocasse, n'est-ce pas ? Nous avons une Japonaise, un Polonais, une Haïtienne et une Norvégienne. Voilà. Et puis voilà. Or, on est correct, poli, on ne met pas les pieds sur la table, on ne casse pas un verre, tout ça. Ben voilà. Si donc, intendant de son royaume, et donc Dieu dit que la terre, tous les états, toutes les nations, c'est son royaume. Donc, doctrine de la royauté de Dieu, ou de la royauté du Christ, ben, voilà, et enfin... Vous n'avez ni gouverné selon la droiture, ni observé la loi, ni servi le dessein de Dieu. Ouh. Donc, pour la loi sur l'avortement, ça va mal se passer. Il fondra sur vous d'une manière terrifiante et rapide. Vous voyez, dans mes moments d'attente du Seigneur, Maranatha, dit, mais vous avez dit terrifiant et rapide. Oui ? Allô ? Non. Ah. Jésus a coupé à nouveau, il m'a raccroché au nez, c'est comme ça. J'avais dit rapide, c'est l'Esprit Saint qui a dit rapide. Un jugement implacable. Vous voyez, c'est la délectation. C'est aimer quelque chose. On se délecte. Délectus, c'est celui qui est choisi parce qu'il est. On l'aime. Donc une délectation, c'est une joie parce que ce qu'on a choisi comme bon pour nous est présent et on se délecte. Morose, ça veut dire de rester sur cette délectation. Comme quelqu'un qui prend un éclair au café, qui le mange, et dit oh, que c'est bon, ce café, cette texture, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Ben, à la fin, au bout de 5 minutes, il dit, il y a un problème, le monsieur. Hein. Une délectation morose. Ouais, on se délecte. Donc moi, quand je vois le monde comme il va, eh ben, je prends le livre de la sagesse, je me mets dans un petit coin pour que Dieu ne me voit pas. Et parce que c'est trop pessimiste, c'est trop noir, tout ça. Mais les séminaristes pourront témoigner que, j'émaille mon cours de considération, eschatologique et apocalyptique. Parce que
vous avez des cours
voilà. Et donc, un jugement implacable s'exerce en effet sur les grands. Aux petits, par pitié, l'on peut pardonner. Mais les puissants seront châtiés puissamment. Wow. Il y en a qui devraient le lire, ça.
Les gauchistes pensent que c'est parce que les gens sont puissants et qu'on est puni, comme Marx qui leur
prend. Non, parce qu'ils font le mal.
Voilà, c'est ça.
C'est pas en tant que puissants.
Ils pensent que c'est de la lutte des classes.
Le maître souverain ne recule devant personne. Ah oui. Hein, c'est Staline qui disait le pape, combien de divisions. Ah ben, là, à sa mort, Staline, il a dû compter toutes les divisions célestes. Comme il y a des milliards d'anges, il doit encore compter. Mais peut-être que ça lui évite d'aller en enfer tout de suite. On lui dit, vous comptez avant d'aller en enfer.
Il était baptisé, Staline.
Et un, deux, et si vous vous trompez, vous repartez.
Il devrait devenir prêtre.
Comment? Enfin non, il était au petit séminaire.
Ouais, mais bon, à théorie, au début.
Voilà.
Mais... La pensée.
Le maître souverain ne recule devant personne. La grandeur ne lui en impose pas. Vous voyez l'antéchrist quand il gouvernera le monde entier. Quand il sera sacré dans le temple de Jérusalem.
Il ne gouvernera pas le monde entier.
Mais si, c'est marqué dans la Bible.
Non, parce que le...
Eh ben, vous avez
le
tort.
Christ sera plus fort.
Non. Le Christ a dit qu'il sera plus fort après le règne de l'Antéchrist. Et ben sinon, vous êtes hérétique. Il n'y a pas de difficulté. Donc, vous pouvez dire que Jésus s'est trompé, mais à ce moment-là, vous n'êtes plus chrétienne.
Non, j'espère bien. Voilà.
Jésus nous révèle que l'Antéchrist va régner sur le monde entier et qu'il le tuera du souffle de sa bouche. Mais avant qu'il le tue, l'Antéchrist aura gagné sur toute la terre. C'est clair?
C'est à ce moment-là qu'on sera en prison.
Comment?
À ce moment-là qu'on sera en prison.
Eh ben c'est, on vivra de mauvais instants. Et notre Seigneur dit, c'est à cause des que même ceux qui ont la foi seront tellement étouffés par ce règne de l'Antéchrist que le Christ viendra abréger ses jours parce que eux-mêmes seraient tentés d'apostasier. Tellement ça serait épouvantable. Et d'ailleurs, on peut, comme écrit prophétique concernant cette fin des temps, Antiochus Épiphane, qui a torturé les Juifs d'une manière épouvantable, était vraiment une image de la fin des temps. C'est-à-dire que tous les Juifs qui adoraient le Seigneur étaient massacrés, tués, torturés, partout. Ça a été épouvantable. Les Juifs apostasiaient en masse pour préserver leur vie. Ils adoraient les dieux grecs. Oh mon Dieu, oui. Voilà, ils n'en pouvaient plus. Il suffisait de mettre quelques grains d'encens pour survivre. Et quand vous pensez que ce sont des non-Juifs baptisés, des Romains, des Égyptiens, des Coptes, des Égyptiens qui étaient persécutés par les empereurs après Jésus-Christ, 1er, 2e, 3e, 4e siècle, et même avec une persécution de Julien l'Apostat, pour sauver leur vie, il suffisait qu'ils mettent des grains d'encens sur du charbon devant une statue de l'empereur ou de Jupiter. C'est le seul acte qu'on leur demandait. C'est-à-dire, Dieu, c'est César, Dieu, c'est, Jupiter, ou Junon, ou Apollon, voilà.
Quelle force!
Et donc il se disait, ben non, comme c'est pas vrai, je vais pas le faire. C'est Jésus qui est le vrai Dieu. Et ils étaient tués. Et ben, alors ce qui va arriver dans la fin des temps, à mon avis, il y aura quand même de la violence, parce que Satan n'a progressé qu'à chaque fois en tuant les prêtres. Il fallait quand même tuer les prêtres. Et, comment dire, à la Révolution française, des milliers de prêtres ont été tués.
Et il y en a
voilà. En Espagne, les prêtres ont été tués. Sous Staline, les prêtres ont été tués. Voilà.
Mexique.
Au Mexique, les prêtres ont été tués. À un moment donné, Satan dit oh, corrompre les gens avec le temps, avec la pornographie, tout ça. Le faire perdre la foi avec l'évolutionnisme par le hasard, ça prend trop de temps. Ouais, on les tue. Voilà. Il craque de temps en temps, le pauvre. Mais quand il craque, il n'est pas sûr du résultat. Là, ça fait plusieurs années qu'il maîtrise ses nerfs, qu'il est bien zen, là. Lucifer, là, il a demandé à Bouddha, il a peut-être sauvé son âme, le brave homme. Et peut-être qu'il était dans l'ignorance invincible et que c'est un... Enfin, en tout cas, il s'inspire de Bouddha pour se vider la tête. Et non, ça va pas assez vite, je sais. Il y a pas assez de monde qui se damne.
Lucifer.
Oui, il y a pas assez de monde qui se damne. Il faut que je les tue, ces catholiques. Là, il y a Baphomet qui lui dit, comment dire, tu sais, la dernière fois qu'on les a tués, tout ça, après il y a des résurgences. Ben, tu te souviens, il y a un de leurs auteurs qui a dit « Le sang des martyrs, c'est la semence des chrétiens. » Allez, calme-toi un peu. Allez, on va leur foutre un film sur les lesbiennes, sur les machins, sur les trucs, sur les prêtres pédophiles. Là, il y en a un qui va sortir, là, prochainement. Mm-hmm. Un film américain sur la hiérarchie. Donc, on voit un évêque américain qui cache un prêtre et tout, voilà, tout ça. Comme il y avait eu un film français, qui était drôle, il y en a un film belge, où vous aviez une mère de famille qui voulait faire condamner un prêtre pédophile, tout le monde le protégeait, alors du coup, elle prend un revolver et elle va les tuer. C'est très drôle. Donc à un moment donné, mais dans le film, ils étaient vraiment pédophiles, donc elle va à une réunion de prêtres, alors c'est amusant parce qu'ils sont... Les prêtres de maintenant, donc il y a un col roulé, un col romain. Et là, ils ont respecté la sociologie actuelle du clergé. Mm-hmm. Et puis elle prend, elle dit « Qui est le père machin ?»« C'est moi. » Et ploum, elle le tue. Donc, et parce qu'elle a pris une liste de prêtres mis en cause dans des affaires de pédophilie. Ouais. Et donc, elle tue le prêtre qui a touché son enfant, mais elle tue d'autres prêtres en disant... Et à chaque fois, elle prie et tout ça. Elle dit « Seigneur Jésus, j'accomplis ta justice. » Alors c'est très drôle, c'est très humoristique, mais quel est le but ? Eh bien, c'est de salir l'Église, alors que la pédophilie est un phénomène largement familial, qui concerne les pères et les oncles à 80%, que 1 à 3% des professions de l'enfance sont concernées par des actes pédophiles, et que pour les prêtres, c'est 0,05%.
Il y a davantage de pasteurs incriminés.
C'est intéressant de critiquer les prêtres.
Ah non, mais c'est pas le problème. C'est détruire l'Église, c'est l'autorité de l'Église. C'est pas la réputation des prêtres, c'est les gens ne croient pas en Jésus-Christ, ultimement. Et donc, le mariage homosexuel, l'adoption homosexuelle, tout ça, voilà. Poutine dit, moi l'homosexualité ça me pose pas de problème, du moment qu'ils font ça dans leur appartement, porte fermée, je m'en fous.
Ben voilà.
Oui, c'est un militaire, hein, Poutine. Il a tué sans doute de ses propres mains pas mal de personnes. Il doit connaître des chansons de corps de garde et tout. C'est la mort, la débauche lui fait sans doute pas très peur. Mais quand on est devant tout le monde, devant le Parlement, tout ça, on est propre, on est bien. Hein. On est dans la rue, on est propre, on est bien. On n'est pas en train de se saouler un soir entre agents du KGB parce que on a dessoudé un espion américain. Donc on est là et il dit porte fermée, ils font ce qu'ils veulent, mais ne touchez pas aux enfants. Toc. Et bien voilà. Alors lui, du coup, il fait une loi qui interdit que les pays qui ont l'adoption homosexuelle puissent adopter du coup des petits Russes. Boum. Or, il y avait pas mal de petits Russes qui étaient orphelins ou abandonnés, donc ça fait une manne pour pour les Européens qui disparaît. Le maître souverain ne recule devant personne, la grandeur ne lui impose pas. Petits et grands, c'est lui qui les a faits. De tous, il prend un soin pareil. Verset 7 du chapitre 6. Mais c'est très beau. C'est du catéchisme à l'état pur, le livre de la sagesse. Vous voyez ? D'où vient le catéchisme de l'Église catholique de 1992 ? D'où vient le catéchisme de Saint-Pédis ? D'où vient le catéchisme du Concile de Trente ? D'où vient l'enseignement des pères de l'Église, de tout ça, des conciles et tout ? Eh bien, eux, ils lisent la Bible. Et puis, ils sont inspirés par l'Esprit-Saint parce qu'ils ne sont pas seulement le nez dans un bouquin. Et, comment dire, ils vivent de la présence du Christ. De tous, il prend un soin pareil. Donc Dieu nous dit, de tous, je prends un soin pareil. Ne dites pas que je m'occupe moins des pauvres, que je m'occupe plus des riches. Non. Un soin pareil. Et il dit même, ben, ceux qui ont moins reçu à la distribution des prix, hein, des personnes qui spéculativement ne sont pas géniales, tout ça, qui peuvent faire des erreurs parce qu'ils manquent de finesse ou d'intelligence, parce qu'ils sont grossiers, parce qu'ils sont rustres, eh bien, voilà, aux petits, par pitié, l'on peut pardonner. Mais une enquête sévère attend les puissants. Une enquête sévère. Oh non, il n'y a pas de jugement, on va tous au paradis, tout ça. Ben voilà, dans le mythe de sagesse, non. C'est donc à vous, souverain, que je m'adresse. Pour vous apprendre la sagesse, pour vous apprendre la sagesse, et vous empêcher de tomber, de pécher. Car ceux qui gardent saintement les choses saintes seront reconnus saints. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ? Et là, comme c'est trois fois le même mot, le traducteur a, Dieu merci, pas voulu faire de la littérature, il a traduit à chaque fois le même mot par le même mot en français. S'il y avait trois répétitions, et bien il a fait les trois répétitions. Car ceux qui gardent saintement les choses saintes seront reconnus saints. Quelle insistance! Et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense au moment du jugement. Donc il y a un jugement. Ainsi, désirez-les, mes paroles. Aspirez après elles. Elles vous instruiront. La sagesse est brillante. C'est qui la sagesse? C'est la parole du Père. Hein. C'est le Verbe. Hein. C'est Jésus. Hein. Donc attention. Hein. Là, louange sur louange pour Jésus, le Verbe. Jésus est brillant. Jésus, c'est pas qui suis-je ? Voilà. L'âme de Jésus est plongée dans la vision béatifique dès le premier instant de sa conception. La sagesse est brillante. Elle ne se ternit pas. Ceux qui l'aiment la contemplent sans peine. Nous, on a l'impression de peiner, et Dieu nous dit en fait, parce que vous l'aimez, en fait, ça vous est plus facile que les pécheurs.
Oui, c'est juste.
Parce que Jésus nous a dit qu'il y avait plus de joie pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Donc il va falloir à un moment donné quand même de temps en temps se réjouir d'avoir fait une bonne confession et de s'être relevé de ses fautes et d'être heureux. Quoi. À un moment, il faut être heureux d'être dans le bien. Il ne faut pas quand même toujours se prendre pour un gros pécheur. Oui. Pour le centième pécheur qui réjouit le ciel. Parce qu'il y a quand même 99 justes dans cette parabole. Et là, qu'est-ce que dit Dieu ? Ceux qui aiment le bien, le vrai, ceux qui recherchent la vérité, ceux qui prient, ceux qui vont à la messe, eh bien c'est bien. Voilà. Ah bon, oui, mais vous comprenez, il paraît qu'on est méchant et que ceux qui vont pas à la messe sont peut-être plus gentils que nous. Eh bien, flûte à la fin. Ceux qui vont à la messe et qui entendent la parole du bon Dieu, qui font des efforts pour être bons, eh bien justement, ils devraient, comment dire, se rendre compte qu'ils sont dans une plus grande bonté. En effet. Mais alors ceux qui vont à la messe et qui sont méchants comme des teignes, ça, j'aimerais pas être à leur place. Parce que non seulement ils déshonorent Dieu, mais ils le déshonorent devant les autres.
Ils seraient peut-être pires s'ils n'allaient pas à la messe.
Comment ?
Ils seraient peut-être pires s'ils n'allaient pas à la messe.
Oui, mais ils ont quand même une responsabilité particulière.
Oui.
Ceux qui l'aiment la contemplent sans peine. Elle se laisse découvrir par ceux qui la cherchent. Mais non, il faut toujours être en recherche. On n'arrive jamais à savoir. Ben, c'est faux. À un moment donné, on sait. Voilà. Ah, mais je ne sais pas qui est Dieu. Hein. Bon, alors tu ne sais pas qui a fait le ciel et la terre, tu ne sais pas qui a fait les cellules, tu ne sais pas qui a fait les arbres. Ben, je ne sais pas. Non, c'est Monsieur Hasard et Madame Nature qui ont eu un enfant. Voilà. Avec Monsieur Temps. Ils étaient à trois. Oui. Ah, mais ça devient immoral tout ça. Ceux qui l'aiment la contemplent et elle se laisse découvrir par ceux qui la cherchent. Donc on arrive à la trouver. On a le baptême de désir, on a le baptême de désir, mais à un moment donné, voilà, il faut se faire baptiser. Baptême d'eau. Mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Et du coup, eh ben, on le suit. Mais Jésus nous a dit que celui qui veut sauver son âme, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, ça veut dire que c'est pas au moment du baptême qu'on n'a plus aucun problème, ni de salaire, ni de santé, tout ça, voilà. Et qu'on n'a plus qu'à se faire imposer les mains par un groupe charismatique pour retrouver à chaque fois la santé, à chaque fois qu'on a un cancer. Ou les oreillons. Ou un mal de tête. Mais l'Église, elle veut un dossier médical avant d'imposer les mimines sur la tête. Oui. Bon. Et c'est... La sagesse prévient ceux qui la désirent. Mais prévient, c'est au sens ancien du terme, prévenir. Elle anticipe leur désir. Prévient ceux qui la désirent et se montre à eux. La première, elle vient à notre rencontre avant même qu'on l'ait trouvée. Qui la cherche dès l'aurore n'aura pas à peiner. Il la trouve assise à sa porte. Vous voyez, celui qui dit « mais j'aimerais connaître la vérité voilà, », il se lève le matin, il dit « j'aimerais connaître la vérité », il ouvre la porte. Et il trouve l'évangile, il trouve là une croix, et ah, elle est à sa porte. Et c'est très joli comme image. Hein. Voyons. S'y adonner, d'ailleurs, est d'une parfaite prudence. Ah, prudence, justice, force et tempérance. Et qui lui consacre ses veilles sera vite à l'abri du souci. Ah, mais le souci, lequel souci ? Eh bien, le souci de la santé. Hein. Donc je vais être en bonne santé si je crois en Dieu. Ben pas forcément. Je vais être riche alors. Même tétraplégique, mais j'aurai au moins 10 servantes et serviteurs parce que je serai milliardaire. Non plus. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas de souci. À l'abri du souci. Ben, le souci d'avoir peur de se damner. Le souci de se damner. Le souci d'être malicieux et d'être triste parce qu'on est malicieux. Ah oui, mais il y en a qui se torturent hein, et qui sont dans la nuit obscure. Un Saint Jean de la Croix ou une Mère Teresa. Et comment ça se fait qu'elles ont ce souci? Oui, mais ce n'est pas un vrai souci. C'est une, comment dire, c'est une purification, c'est une impression. Mais ce n'est pas le souci, le grand souci, ce damné. Ah mais si, Saint François de Sales, il pensait qu'il se damnerait, Saint Alphonse de Ligori, il pensait qu'il se damnerait. Oui, mais c'est un scrupule. Oui, mais c'est un souci, un scrupule. Oui, mais c'est pas le souci. Le vrai souci, c'est de faire le mal. Et de l'assumer. Ça, c'est un gros souci. Un gros souci.
Oui, mais en général, ceux qui font ça, ça leur est égal.
Oui, mais c'est un souci.
Ils ne s'en rendent pas compte.
Vous savez, Lucifer est triste, hein, à en crever. Et le pauvre, il ne crève pas. C'est un gros souci qu'il a, Lucifer. Il est là, il fait... Bon. Ah, je suis vraiment très triste. Et j'en bave. Bon. À cause de quoi? Parce que je hais Dieu. Ah, c'est pas malin. Oui, mais j'aime ça. Eh bien, tant pis. Je garde ce souci. Dans le manuscrit de l'enfer, vous voyez, cette femme damnée qui écrit à une amie religieuse, Dieu lui donne d'écrire sur des feuilles et elle laisse ça à la porte de la religieuse. Elle dit, à chaque fois qu'un démon pousse quelqu'un à se damner, parce que l'âme est libre, hein, elle peut refuser l'influence démoniaque. Lorsqu'un démon a été un instrument assez efficace, jamais parfait, mais qu'il a coopéré, collaboré à la damnation de quelqu'un, il en gagne une souffrance supplémentaire. Pourquoi ? Parce que d'abord, dans sa nature, il sait qu'il devrait aimer Dieu, et il ne veut pas aimer Dieu. Donc déjà, il en bave. Qu'il pousse un être libre à détester Dieu, il est trop intelligent pour ne pas se rendre compte qu'il a fait du mal. Et que c'est contraire non seulement à la nature de la personne qui l'a influencé, mais à sa propre nature, que de pousser encore un autre d'ailleurs Dieu. Donc ça aggrave sa peine de damnation. La peine du dent de ce démon est aggravée. Et vous savez quel est le commentaire de cette damnée ? Elle dit, les démons, à chaque fois qu'ils poussent à la damnation de quelqu'un, ils souffrent encore plus qu'avant d'avoir engrangé un de plus. Et elle, virgule, elle dit, que ne fait pas la haine ? C'est par haine. La haine est tellement forte en eux qu'ils sont conscients qu'ils vont souffrir encore plus. Mais tant pis. C'est... Ah, pour la beauté de la haine. Qu'est-ce qu'une... Pour la beauté du geste, vous voyez. Par exemple, de manière chevaleresque, de boire un verre de cyanure. Pour le culot que ça représente. Vous êtes là, et devant 1000 personnes. Santé ! Mais oui, mais pour la joie d'avoir le culot et de laisser se souvenir d'avoir eu le culot de boire ce verre de cyanure, il le boit. Et là, il va en enfer tout droit. Mais voyez-vous, il ne laisse pas un grand souvenir. C'est l'année Saint-Martin. On parle de Saint-Martin, tout ce qu'il a fait de sa vie, tout ça. Mais il y a eu des démons à son époque, il y a eu des gens mauvais comme des teignes qui ont fait souffrir les autres, qui ont tyrannisé des villages, des villes. Mais on ne sait plus qui c'est. Alors si, on se souvient d'Attila, on se souvient de Néron, et, oui, mais c'est une poignée par rapport au nombre de saints. Vous voyez, finalement. Est-ce que... Dans le catalogue des saints de l'Église au XXe siècle, il n'y en a pas plus que Staline, Mao, Hitler,
Pol Pot.
Enfin,
c'est à peu près ça.
Ben oui, mais ça fait 10, 15. Oui. Mais là, on en a canonisé 1000. Elle-même s'en va partout chercher ceux qui sont dignes d'elle. Alors là, voyez-vous, dans la querelle de la grâce, qui nous sauve ? Est-ce qu'on coopère à cette grâce ? Vous voyez, les jansénistes disent, c'est Dieu qui nous rend dignes, nous, on ne fait rien. On est des cadavres qui recevons la grâce, comme ça. Voilà. La liberté humaine qui est mue par la grâce est mue comme une bille de plomb. Il n'y a pas de... Et donc, dans la... Mais cette querelle, elle est... Saint Augustin lui-même se posait des questions là-dessus. Les jansénistes du XVIIIe siècle ont pris Saint... Oh, du XVIIe, XVIIIe siècle ont pris Saint Augustin, tout ça, enfin, toutes ces querelles. Et là, justement, le verset 16 de ce chapitre 6 contribue à cette querelle. Elle s'en va chercher partout, chercher ceux qui sont dignes d'elle. Alors, on est avant, on est après, on est... Alors on m'a dit de couper...